Cette trêve qui est donc entrée en vigueur ce dimanche avec près de 3 heures de retard qui prévoit, l'accord prévoit notamment une libération de 3 otages israéliennes dès cet après-midi. Bonjour Guillaume Ancel.
Bonjour.
Ancien militaire, écrivain, auteur du blog Ne pas subir, auteur également de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette. Merci d'être avec nous. Alors, il y a eu quelques heures de confusion ce matin sur le cessez-le-feu initialement prévu à 8h30 local, lié à un retard de la publication des noms des premières otages israéliennes libérables. Retard d'ordre technique selon le Hamas. Est-ce que vous pensez, Guillaume Ancel, que cet accord qui va s'étaler sur plusieurs semaines peut tenir, que ce plan peut être respecté ?
Les retards de ce matin n'ont aucune importance par rapport à l'enjeu de cet accord. Et à mon avis, cet accord tiendra. Pourquoi ? Parce que c'est Donald Trump qui l'a voulu. Et il impose sa volonté à Benjamin Netanyahou, ce que n'avait absolument pas su faire le président Joe Biden avant lui, qui était un président beaucoup d'incertitudes dans sa capacité à imposer justement ses décisions ou ses non-décisions. Donald Trump a annoncé dès mercredi qu'il avait trouvé un deal sur les otages et par conséquent, il ne laisse pas le choix à Netanyahou. On voit bien que le premier ministre israélien a essayé de montrer que ce serait peut-être compliqué et puis qu'il fallait encore négocier. Mais en réalité, s'il n'avait pas accepté cet accord, s'il n'était pas rentré en vigueur, il humiliait le président Trump dont l'investiture a lieu demain. Et par conséquent, on avait l'assurance qu'il rentrerait en vigueur, même si ça s'est fait avec quelques heures de retard. Mais qu'est-ce que c'est après 15 mois de guerre et plus de 100 000 bombardements contre la bande de Gaza ?
Benjamin Netanyahou a tout de même averti hier, il affirme que le cessez-le-feu est provisoire, que son pays se garde le droit de reprendre la guerre si besoin et avec le soutien des États-Unis, alors que vous le disiez, Donald Trump sera investi demain. Qu'est-ce que vous pensez de cette rhétorique ?
D'abord, Netanyahou a besoin vis-à-vis de ses plus extrémistes de montrer qu'il garde la main et le contrôle. Mais Donald Trump a déjà annoncé qu'il ne voulait pas de la guerre, que c'était un bad business. Et par conséquent, même si Israël conservera le droit d'intervenir militairement, mais sporadiquement, comme il le fait actuellement d'ailleurs au Liban, où il y a un cessez-le-feu qui court maintenant depuis presque 2 mois.
Mais violé régulièrement.
En fait, la dynamique de la guerre s'arrête. Par contre, il faudra des mois pour que vraiment elle s'éteigne. Et ça n'est pas parce que la guerre s'arrête qu'on aura rétabli la paix pour autant.
Certains soupçonnent Benjamin Netanyahou de saisir le moindre prétexte pour reprendre les opérations militaires à Gaza une fois que les otages israéliens seront libérés. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce sera compliqué parce que les otages doivent être libérés au fur et à mesure de la première phase, en tout cas pour les 33 premiers, qui va durer 6 semaines. Par conséquent, si Netanyahou se permettait d'interrompre ce cessez-le-feu, vraiment de l'arrêter complètement, il se retrouverait face à la société israélienne qui ne comprendra pas pourquoi on ne finit pas de libérer les otages, et puis surtout face à Donald Trump qui ne lui pardonnera pas de ne pas lui faire tenir parole. Trump s'est engagé au fait que la guerre allait se terminer, que les otages seraient libérés.
On en parlait dans le journal, des milliers de déplacés palestiniens ont pris le retour du chemin du retour dans la bande de Gaza ces dernières heures, le territoire qui est ravagé après 15 mois de guerre, des dizaines de milliers de morts. Est-ce que c'est pour vous le début d'une dynamique, d'abord vers une reconstruction et éventuellement une solution pérenne dans le territoire palestinien ?
Pour les Palestiniens, c'est évidemment un immense soulagement. C'est-à-dire, on n'arrive pas à imaginer ce que c'est que d'avoir subi plus de 100 000 bombardements. Normalement, un bombardement fait au moins un mort et 3 blessés ennemis. Par conséquent, on a au moins autant de morts et de blessés. Donc pour les Palestiniens, le fait que ce pilonnage intensif qui durait encore ce matin, jusqu'au début de la trêve, s'arrête, c'est déjà un immense soulagement. Toute la question du jour d'après, de la reconstruction, est nettement plus complexe parce qu'il faudra d'abord résoudre le problème de la gouvernance.
Oui.
Qui va contrôler Gaza ? Et ensuite, seulement quand la situation politique sera stabilisée, on pourra commencer à reconstruire un pays qui a été complètement dévasté et pollué par cette guerre. Il y a des milliers d'explosifs qui n'ont pas fonctionné. Tout est pollué jusqu'à l'eau. Donc c'est une reconstruction énorme qui nécessitera, à mon avis, au moins une décennie et des dizaines de milliards de dollars.
Le ministre israélien des Affaires étrangères a mis en garde ce matin contre une persistance de l'instabilité régionale si le Hamas restait au pouvoir. Vous l'évoquiez, cette question de la gouvernance de la bande de Gaza est en suspens.
Dans les circonstances Il n'est pas imaginable que le Hamas reste au pouvoir à Gaza. C'est eux qui ont déclenché l'attaque terroriste du 7 octobre contre Israël, qui a été le détonateur de cette guerre. Et par conséquent, pour moi, ils ont perdu toute crédibilité à pouvoir gouverner un territoire. Non, la question qui se pose maintenant, c'est au-delà de Gaza, c'est aussi la Cisjordanie, et bien sûr, c'est de
Occupé.
pouvoir enfin former un État palestinien qui puisse discuter avec l'État israélien, sans être uniquement dans le désir de revanche.
Mais avec qui alors l'autorité palestinienne a été relativement absente ces dernières années?
C'est vrai, mais avec qui ça concerne aussi Benjamin Netanyahou, je ne le crois pas capable de pouvoir construire positivement quelque chose avec les Palestiniens. Et ce sera aux Israéliens de décider maintenant qui ils veulent au pouvoir pour construire une paix durable, ce que ne sait pas faire Benjamin Netanyahou.
Guillaume Ancel, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui des capacités militaires du Hamas après ces 15 mois de guerre?
En fait, elles ont toujours été assez réduites et en même temps, elles sont impossibles à effacer, car le Hamas n'a jamais eu réellement une armée, contrairement au Hezbollah. Ce sont des miliciens. Et un milicien, par nature, c'est quelqu'un qui prend une arme à un moment et qui se bat. Par conséquent, avoir fait croire aux Israéliens qu'ils pouvaient se débarrasser du Hamas avec uniquement une offensive militaire, c'est comme de chasser des fantômes avec un crucifix.
Merci à vous, Guillaume Ancel. Je rappelle votre blog Ne pas subir et votre livre Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette. Et je rappelle ce dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas depuis le début de la guerre à Gaza, bilan de 46 913 morts.